Voilà, bonjour. Vous savez qu'à l'église ici, on est en train de faire une série sur le réveil. Et notre thème de la saison et notre souhait, c'est qu'on puisse vivre, être une communauté réveillée. Et on croit que ça passe par être des chrétiens réveillés. Et le verset clé, c'est un verset qui est dans Romains 13. Et je vous le lis simplement. C'est un verset où Paul dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » J'aimerais prier avant de passer à la suite de la prédication. Seigneur, c'est vrai, on a à cœur de vivre un réveil en communauté et aussi personnellement. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour chacun aussi, que on puisse comprendre quelque chose de toi et nous approcher de toi d'une telle manière que nous serons tellement émerveillés que ça va encore nous faire passer un nouveau cap dans notre vie. Et Seigneur, ma prière, c'est que notre vie puisse être centrée sur le bon combat. Amen. Il y a un film qui s'appelle Time Out, je ne sais pas si certains l'ont vu. C'est un film qui a 4 ans et qui se passe en 2070. Et c'est un film, c'est une époque où les gens, où il n'y a plus d'argent. L'argent a été remplacé par le temps. C'est-à-dire que la monnaie d'échange, c'est devenu le temps. Et comme les êtres humains ont été dans ce film-là génétiquement modifiés, ils ont été créés pour vivre éternellement. Donc ils ne meurent plus. Et du coup, il a fallu introduire la notion de temps qui est devenue la ressource. Et donc, chacun a jusqu'à 25 ans pour vivre. Et à l'âge de 25 ans, il a un compte épargne sur lequel est crédité une année. Et à partir de là, il faut qu'il gagne sa vie. Et il faut qu'il gagne du temps, en fait. Il ne gagne pas de l'argent, il gagne du temps. Et toutes les transactions se font en termes de monnaie d'échange temps, capital temps. Et donc, vous avez sur le bras, on peut voir peut-être l'image, si ça marche, Gilles. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc là, par exemple, ça, c'est une personne qui a encore qui a un capital d'un an, 0 jour, 12 heures, et, ou alors c'est quoi plutôt ? C'est peut-être 50 secondes, 12 minutes, pas aucune heure et un jour. Donc cette personne a encore un jour au compteur. Donc elle a intérêt à vite gagner du temps quelque part, sinon d'ici un jour, en fait, elle meurt. Voilà, c'est ça le film. Et puis du coup, en gagnant sa vie, on gagne du temps. Quand on monte dans le bus, on paye, on met son bras, puis on paye en temps. Voilà, on peut jouer au casino, on peut gagner ou perdre du temps. C'est devenu l'argent est remplacé par le temps. Et j'aime bien cette image. Et ce que je trouve intéressant surtout, c'est l'idée de dire, mais finalement, le temps, c'est une denrée limitée aussi. On a un compteur quelque part, on a déjà passé un certain nombre de jours ici, et il nous en reste encore un certain nombre de jours. Moi, j'ai regardé, si on vit 80 ans, ce qui est une vie assez longue, on a à peu près 29 000 jours au compteur au départ. Et puis chaque jour, il y en a un de moins. Hein. Donc moi, pour moi, par exemple, moi, j'en suis à 11 892 jours, épuisé. Et s'il m'arrivait de vivre vieux jusqu'à 80 ans, il me restait encore 17 328 jours à vivre. Voilà, puis chaque jour, un de moins, quoi. Hein ? Ouais. Alors du coup, voilà, quel âge ai-je ? Quelle est ma date de naissance ? Pierre-Alain.
Pas comptable.
Voilà. Finalement, le nombre de jours qui nous reste à vivre, ce n'est pas tellement important de le savoir pour nous. Ça ne nous est pas donné de le savoir. Mais la question que nous, on doit se poser, c'est qu'est-ce que je fais du temps qu'il me reste, moi, à vivre encore ? Et je ne sais pas combien de jours on a chacun de nous. On ne le sait pas. On a plus ou moins encore à vivre, mais on ne sait pas combien il nous en reste. Mais de ce temps-là, qu'est-ce que je fais ? Et est-ce que ce temps-là, je veux l'utiliser à bon escient ? Est-ce que le temps que j'ai déjà eu, je l'ai utilisé à bon escient ? On peut peut-être faire le bilan. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui nous reste, c'est de faire un bon usage du temps qui nous reste. Donc ce matin, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est qu'on fasse un bon usage du temps qui nous reste à vivre. Et je vous propose de lire en fait un passage dans Timothée 4, 2 Timothée 4, où Paul justement fait le bilan et dit « Moi, il me reste très très peu de temps au compteur, mais la manière dont j'ai vécu ma vie, eh bien, je crois que j'ai bien utilisé mon temps. » On va lire les 8 premiers versets, mais c'est surtout les versets 6 à 8 qui vont nous intéresser. Donc 2 Timothée au chapitre 4, les 8 premiers versets. Donc Paul fait des recommandations à Timothée. Il commence, c'est assez solennel. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, qui me la remettra au jour de jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Voilà, je vous propose de voir dans un premier temps le thème de cette libation, on va voir ce que c'est cette libation. Dans un deuxième temps, on verra la question de ce bon combat. Et puis dans un troisième temps, on verra la question de cette récompense, cette justice éternelle. Dans certaines versions, vous avez une couronne de justice. On verra ça dans un troisième temps. D'abord, la libation. Donc Paul dit que le moment de son départ est arrivé et que sa vie sert de libation. Qu'est-ce que c'est qu'une libation? C'était au moment des sacrifices. La libation, c'était une offrande liquide sous forme de vin ou d'huile. Il y a différentes choses qui étaient possibles. Et en fait, dans les offrandes, c'était la dernière étape de l'offrande quand il y avait une libation. La libation, elle venait à la fin, soit d'une offrande végétale, soit à la fin des holocaustes, comme ça. Et donc, quelque part, c'est comme on pourrait dire, c'est le sacrifice final, c'est le dernier sacrifice. Et c'est comme si Paul dit, je suis en train d'offrir mon dernier sacrifice. Mon dernier sacrifice, ça va être mon martyr, en fait. Parce que Paul s'attend à ce qu'il va être mis un terme à sa vie de manière violente, en fait, par un martyr. Donc il s'attend à ce que c'est son sang qui va couler, en fait. Cette libation liquide qui va arriver dans sa vie à lui, ça va être son sang qui va être versé. Mais Paul ne s'en plaint pas. Paul... C'est comme s'il disait, en fait, ma vie, elle sert à ça, c'est ma vocation. C'était prévu que je fasse ça, en fait. Et du coup, je vais le faire. Pour lui, d'accomplir cette libation, c'est une manière d'honorer Dieu, de glorifier Dieu. C'est sa mission et il veut tenir bon dans l'appel qu'il a reçu. Et donc, il dit, je veux garder la foi jusqu'au bout, y compris dans cette dernière chose que Dieu me demande, qui est le martyr. Alors, on disait tout à l'heure qu'on veut chercher pour nous quelle est la bonne manière de savoir utiliser le temps que Dieu nous laisse à disposition. Et je ne sais pas si ça nous fait très envie de voir qu'en tout cas pour Paul, ce qui lui semble être la chose à faire dans le temps qui lui reste à disposition, c'est de mourir en martyr. Je ne sais pas si c'est l'appel le plus excitant qui soit devant nous. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir en ce dimanche de l'Église persécutée, c'est que c'est un appel qui reste valable encore aujourd'hui. Et qu'il y a bien des personnes auxquelles ce que Dieu demande là comme dernier acte de foi et pour le glorifier, c'est de tenir ferme jusqu'au bout, y compris dans le martyre. Pour moi, ce sont des héros. Parce qu'ils ont gardé la foi jusqu'au bout. Peut-être qu'ils ont tremblé, peut-être qu'ils ont pleuré, peut-être qu'ils n'ont pas été des héros faciles pour moi. Non, ça a dû être dur pour eux et il y a certainement une véritable souffrance pour chacun d'entre eux là derrière. Mais ils ont tenu bon. Et Paul, qui est en train d'écrire à Timothée, il se met en exemple et dit, tu vois, toi aussi, il faut que tu tiennes bon. Ta vocation à toi, Timothée, c'est d'être un évangéliste. Et en tant qu'évangéliste, ta vocation, c'est de proclamer la parole. Que le contexte soit accueillant ou pas. Que ça va se passer facilement ou que tu ne vas pas bien être reçu. ça c'est ta vocation. Et donc ça implique qu'à certains moments tu risques de souffrir. Et ça c'est la parole que Paul adresse à Timothée. Ça ne va pas être simple, mais ce qui compte pour toi c'est que tu restes fidèle à la vocation que Dieu te donne, dans la manière de le faire et dans le fond, dans le message, avec patience et en restant fidèle au contenu. Donc il ne dit pas à Timothée de rechercher la persécution, mais il dit de l'accepter si elle arrive dans sa vie. Moi, j'aimerais nous encourager à faire un bon usage de notre vie et à être des héros qui affrontons la vie avec courage. Et je crois qu'on peut se poser la question si on est tous appelés finalement donc, à vivre la persécution. On a vu cette carte. Hein. Donc, chez nous, ça peut nous arriver dans nos vies de vivre des temps plus difficiles que d'autres. Est-ce qu'on est tous appelés à vivre la persécution ? Un passage qui m'aide pour ça, c'est dans Hébreux 11, où justement il est question des héros de la foi et où les questions de personnes qui ont été persécutées, mais pas seulement. Je vous lis donc la fin du chapitre 11, à partir du verset 32. Que dirais-je encore ? Le temps me manque. Donc l'auteur de l'épître poursuit avec des héros. Il a déjà fait toute une liste avant, et il continue. Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes. Ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu la réalisation de promesses. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Échappé aux tranchants de l'épée, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a prouvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Voilà, toute une liste de comportements de personnes qui ont été des gens qui ont été approuvés comme une libation, comme un sacrifice qui a été agréé par Dieu. Donc, c'est des gens qui ont fait la bonne chose. Bah, pour certains d'entre eux, ils ont conquis des royaumes. Certains d'entre eux, ils ont fermé la gueule des lions. Imaginez, j'aimerais bien vivre ça. Ils ont fermé la gueule des lions. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être comme défi pour nous aujourd'hui, mais avec Dieu, des fois, on peut vivre des trucs extraordinaires, vraiment, quoi. Et par la foi, ce sont des gens qui l'ont vécu par la foi. Ils ont vécu des trucs incroyables. Et c'est bon d'avoir cette foi que c'est un Dieu qui peut faire des choses qui sortent totalement de l'entendement, quoi. Faut y croire, ça. C'est cette foi-là qui nous permet de croire en Dieu, et Dieu nous demande d'avoir cette foi-là. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont échappé aux tranchants de l'été. Ils ont été remplis de force. Ils ont mis en fuite des armées. Certaines femmes ont même vu des résurrections. Donc, il y a cette réalité-là des héros de la foi. Tous ces héros de la foi, ils ont vu ça. Et ils ont vécu tout ça dans l'attente encore de ce qu'il y avait de meilleur, c'est-à-dire la résurrection totale, celle où on vivrait totalement toutes ces victoires-là. Et puis d'autres, avec la même foi, ils ont tenu bon dans la torture. Ils ont fait face à la persécution, aux moqueries, au fouet, les chaînes, la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, certains ont été sciés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres ont mené des vies errantes de SDF, en s'habillant comme ils le pouvaient, en se débrouillant, avec le minimum pour vivre. Tous des héros de la foi, mais des appels et des vies très différentes. Alors, on préférerait être peut-être dans un camp que de l'autre, et c'est pas que nous qui choisissons. Mais je crois que ce qui compte pour nous, c'est d'être fidèles à ce que Dieu nous demande de traverser. Et parfois, c'est des moments de grande joie, et on peut s'en réjouir, et le vivre avec reconnaissance, et en ayant la foi au cœur. Et puis des fois, c'est des moments plus durs. Et puis là aussi, Dieu nous demande d'être des héros de la foi. Dans tous les cas, on est appelé à avoir cette, avoir Dieu au centre et avoir cette obéissance inconditionnelle. Jésus a dit que si on n'était pas prêt à porter notre croix pour le suivre, eh bien, c'était pas la peine. Et porter sa croix, ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'était une mort violente. Ça voulait dire être prêt à souffrir d'une mort violente. Donc, il faut être prêt à ça, tout en sachant que Dieu peut nous donner tout un tas d'autres choses dans cette vie, puis on peut se réjouir. Et je crois que dans une vie, souvent, il y a un petit peu des deux. Chez les uns, il y aura plus de la manière dont Dieu leur demandera d'accomplir leur combat et leur vocation. Pour les uns, il y aura plus de souffrance que pour d'autres. Il y en a certains, ça sera de la maladie. Il y en a certains, ce sera des situations compliquées à traverser. Et Dieu leur dira, mais tu vois, c'est ça le sacrifice que je veux que tu me rendes. Je veux que tu restes fidèle dans ça, que tu gardes la foi. Et ça, c'est ce que tu vas faire pour ma gloire. Et puis pour d'autres, ben, il va témoigner de sa bonté. Et les belles choses qu'on va voir dans leur vie, c'est comme un avant-goût de la bonté que Dieu veut nous donner en tout temps et pour l'éternité. Et quand on verra ces belles choses, on dira, mais oui, Dieu est bon, regarde comme on peut vivre des belles choses, regarde cette belle famille, regarde cette créativité qui est mise au service de bonnes choses, cette réussite, etc. Ben, on peut se réjouir de ça aussi dans cette perspective-là de la foi. Ce qui est important, et ça me fait venir au deuxième point, c'est de combattre le bon combat. Le terme qui est utilisé ici, je trouve intéressant. Je connais pas forcément le grec ou comme ça, mais là j'ai été voir un petit peu et je trouvais intéressant pour mieux comprendre de quel combat il s'agissait, parce que le combat ça peut être une multitude de combats. Et donc en fait le mot qui est utilisé c'est le mot agon en grec qu'on retrouve dans certains mots. Peut-être ça vous fait penser à ça, agoniser, agonie. Et ben en fait ça veut pas dire forcément dans le premier sens la mort. Hein. C'est plutôt le mot justement combat dans le sens compétition. Agon, c'était l'arène où se déroulaient les combats dans les jeux. Ça pouvait être des combats violents, effectivement, où il était question de vie ou de mort. Mais Agon, avant tout, c'est le lieu, c'est cette arène, c'est le lieu de la compétition, c'est le lieu d'un concours, on va dire aussi, quoi. Donc, c'est pas tellement une métaphore militaire, c'est pas le champ de bataille au niveau guerre, mais c'est plus le lieu d'une compétition, mais où l'enjeu peut être par contre énorme. Et effectivement, ça a donné le mot agoniser en latin et puis en français ensuite, parce que l'agonie, c'est le dernier combat de l'homme. C'est le dernier combat que l'homme mène dans sa vie, le combat contre la mort. Et puis l'adjectif bon, il décrit ici quelque chose de beau en fait, quelque chose de juste, de d'honnête, une action qui est approuvée, qui est honorable. Voilà, quelque chose de précieux, d'adapté. Donc en fait, ici, c'est comme si on disait, voilà, j'ai combattu le bon match, j'ai fait un beau match, j'ai combattu la bonne compétition et je m'en suis tiré avec tous les honneurs. J'ai tout donné et je l'ai fait bien. Je l'ai fait honnêtement, j'ai respecté les règles du jeu, je me suis bien entraîné, j'ai tout donné. Voilà, comme à la fin d'une partie où on a tout donné, voilà, moi je suis... Des fois, on dit ils sont morts debout sur le terrain. Ils ont tout donné. On est fiers d'eux. Et il y a quelque chose de ça là. Paul dit moi, je me suis battu et j'ai tout donné. Et voilà, beau match, belle partie. J'ai tout donné ce que je pouvais donner. Et puis il continue avec une autre image, c'est de la course, qui est une image qui me parle. Moi, j'aime bien la course. Et ça me parle parce que dans la course, c'est aussi une discipline, surtout la course d'endurance où il y a besoin de beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance. Il faut un gros mental parce qu'il y a des moments de crise, il y a des moments où on ne peut plus, il y a des moments où on arrête, où on veut arrêter, on se dit c'est pas possible et puis il faut se dépasser. Et c'est pas rare quand on voit à l'arrivée d'une course de longue distance, les gens qui arrivent, ils ont les larmes aux yeux, il y en a, ils franchissent la ligne, on sent une telle délivrance quand ils sont arrivés au bout, une telle fierté d'être arrivés au bout, peu importe le classement. Je comprends ce qu'il veut dire quand il dit j'ai achevé la course, parce que d'arriver au bout d'une course qui demande tout de vous, quand vous arrivez, c'est un tel soulagement, c'est une telle fierté aussi que voilà, des fois vous en avez les larmes aux yeux quand vous traversez la ligne comme ça. Et cette année, moi j'ai au travail, je travaille avec une secrétaire qui s'appelle Nathalie Varidel, peut-être certains la connaissent, et elle a un Parkinson en fait. Elle a un Parkinson précoce et donc elle a des médicaments, des traitements, etc. C'est pas simple. mais elle s'est lancée le défi cette année de courir Sierre-Zinal. Donc Sierre-Zinal, c'est une des courses de montagne réputées qui fait 31 km, je crois, et avec un certain nombre de dénivelés, 2000 mètres de montée, 700 mètres de dénivelé négatif, donc c'est une grosse course, et elle a décidé de s'engager là-dedans. Alors son objectif, c'était de terminer. Voilà, peu importe la place, et son objectif, c'était d'arriver au bout. Donc elle s'est entraînée, elle s'est préparée pour ça, etc. Elle était stressée avant le départ, puis finalement, elle y est allée, elle a fait cette course. Pendant la course, elle avait un groupe WhatsApp où on pouvait la suivre, donc on recevait des messages, « Ah, je suis à tel endroit, maintenant je suis là. » Et on entendait, une fois, elle a fait un message vocal, là, je me suis dit, oh, « ça va pas du tout, elle était totalement essoufflée. » Et puis là, je me suis dit, « Elle va pas y arriver, ça va être dur. » Et puis, le problème, c'est qu'il y avait des délais, et elle était à la limite des délais. Et si vous êtes hors délai, vous êtes mis hors course. Et donc, elle avait vraiment envie de finir dans la course. Et je crois que j'ai l'impression qu'ils lui ont fait une fleur, parce que ceux qui finissent la course l'ont toujours attendue et l'ont accompagnée. Je crois qu'ils ont assoupli un petit peu le délai pour elle. Et pour finir, elle a réussi à arriver au bout. Et on peut voir une photo hein, où elle arrive d'ailleurs. Donc là, elle arrive. Donc c'est la dame là au milieu avec ses fils là qui la félicitent, qui disent bravo maman. Et quand vous arrivez au bout d'une course comme ça, je ne vous raconte pas l'émotion. Vous pouvez vous imaginer l'émotion que c'est quoi. Elle était KO, mais elle a dit elle était submergée par les émotions. Elle ne savait pas que ses enfants seraient là comme ça en plus. Pour l'accueillir et voilà, elle franchit la ligne avec une telle fierté. Et souvent, quand on fait des courses longue distance comme ça, une fois qu'on est arrivé, on reçoit soit une médaille, soit un t-shirt finisher. Il me semble que j'ai mis une photo aussi comme ça, la suivante, je crois. Ou pas ? Ouais, voilà, ça par exemple, ça c'est les écussons des t-shirts qu'on reçoit à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Voilà, quand vous avez fini l'Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est que ça veut dire quelque chose. Parce que déjà, il faut se qualifier, il faut quasiment faire des courses pendant 2 ans pour arriver à se qualifier à ces courses. Puis après, quand vous l'avez fini, une course de 160 km, etc., bah, vous portez votre t-shirt avec fierté parce que voilà, ça veut dire quelque chose. Et je crois que si je vous dis tout ça, c'est parce que je crois que la vie, c'est l'image que Paul utilise, c'est ça aussi ici. C'est pour nous dire, mais voilà, c'est une course difficile, la vie. Mais vous allez arriver au bout, puis vous allez être fier quand vous allez franchir la ligne. Alors continuez de courir. Peut-être c'est un moment plus dur, continuez de courir, accrochez-vous, n'abandonnez pas le combat. La récompense arrivera. Moi, je crois qu'il y a deux écueils à éviter. Il y a un risque, c'est d'abandonner la course, c'est d'abandonner le combat, c'est de pas y aller, c'est de rester passif, de nous laisser vivre et de plus nous battre pour ce qui est important dans notre vie, parce que peut-être qu'on est blessé. Un coureur peut être blessé. Et de la même manière, nous, dans nos vies, on peut être blessé aussi. Et quand on est blessé, peut-être qu'à un moment donné, on a envie d'abandonner. Mais avec Dieu, je crois qu'on est encouragé à continuer le bon combat, même blessé, à aller jusqu'au bout. On peut être démotivé aussi. Ou alors, on peut perdre de vue l'objectif, puis on rentre dans la passivité. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont passifs. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un s'il est prêt à mourir pour quelque chose, je ne sais pas s'il trouve quelque chose pour lequel il dirait « moi, je suis prêt à mourir pour ça ». On peut vouloir mourir pour la mauvaise chose. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a tout plein de gens qui ont été prêts à mourir pour des mauvaises choses, par nationalisme, par religiosité. On voit des terroristes qui se font exploser, ils sont prêts à mourir pour quelque chose, mais ce n'est pas la bonne cause. Donc il y a tout un tas de personnes qui sont prêts à mourir pour quelque chose, pas forcément la bonne chose. Mais il y en a aujourd'hui, ils ne sont plus prêts à mourir pour rien, parce qu'ils sont rentrés dans une passivité où leur vie n'est plus un combat, en fait. Leur vie est devenue quelque chose de plus tranquille, voilà, un peu consumériste, où finalement, on attend que ça se passe, puis on ne se rend pas compte qu'il y a un compteur, là. D'ailleurs, on ne parle pas de la mort, puis on ne se rend pas compte qu'il y a un compteur qui est en train de s'écouler, puis à un moment donné, ça va s'arrêter, puis on se dira, ben mince, en fait, ma vie, peut-être je suis passé à côté de ce que je devais en faire, il y a peut-être quelque chose de plus à faire que de vivre comme ça pour moi-même. Donc, moi, mon encouragement, c'est combattons le combat. Relevons le défi, courons la course, combattons le combat. Si en ce moment vous êtes dans une situation où vous vous sentez pris par la passivité, où vous avez l'impression que vous avez perdu de vue l'objectif, moi je vous encourage vraiment à vous repositionner devant Dieu et de lui demander son aide pour dire voilà, moi je veux pas être passif, je veux relever le défi, je veux courir la course. Voilà, si vous vous sentez concerné, prenez un moment pour faire ça devant Dieu, vous dites voilà, moi je me repositionne devant toi, je relève le défi. Un autre écueil, ça serait de ne pas courir. L'autre écueil, ça serait plutôt de se tromper de combat et de combattre le mauvais combat. Paul est passé par là, en fait. Paul, à un moment donné, il était très combatif. Il s'appelait Saul à l'époque. Et il était très combatif, mais pas pour la bonne cause. Et donc, il se battait, mais il se battait pas pour la bonne chose. Il y a un risque aussi pour nous aujourd'hui de nous battre, mais de pas nous battre pour le bon combat. Et on peut se battre pour tout un tas de choses. On peut se battre pour notre réputation, on peut se battre pour être bien vu, on peut se battre pour nous sentir bien accepté, on peut se battre pour prouver quelque chose aux autres, à Dieu, à soi-même, à travers notre travail, à travers notre ministère, à travers nos titres, à travers tout plein de choses. On peut se battre pour tout un tas de choses qui finalement nous éloignent du vrai combat, du bon combat. Peut-être si en ce moment, justement, toi, tu sens aussi que tu es en train de te battre, mais tu ne la mets pas au bon endroit, ton énergie. Tu es en train de courir, mais ce n'est pas la bonne course. Eh bien, voilà, je prie pour toi aussi. On peut prier pour... tu peux prier, te positionner aussi pour que Dieu te ressente sur le bon combat, sur le combat qu'il t'a donné. Et il y a une dimension qui nous concerne tous. Hein, on est tous appelés à garder la foi, comme Paul, à être des sels et lumières, à répandre la parole de vie. Mais ensuite, chaque course, elle est aussi personnelle. Paul dit, ça c'est ma course qui arrive au bout, c'est la sienne. Et vous, vous avez la vôtre à courir. Et chaque course est différente. Elle a un profil différent. Elle aura plus ou moins de dénivelé, plus ou moins de longueur, plus ou moins de difficultés. Un peu plus de montée pour les uns, un peu plus de descente pour les autres peut-être. Mais ce qui est important, c'est que votre course à vous, celle que Dieu vous donne, la vocation qu'il vous donne, ben, que vous teniez bon, que vous la couriez jusqu'au bout. Et que dans cette vie-là, ben, vous portez des fruits. Moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez arriver au bout de votre course un jour et puis que vous puissiez dire, voilà, ben, moi, j'ai couru la bonne course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, il vous reste encore, je ne sais pas combien de jours, 10, 100, 1000, 10 000, 20 000, 30 000 pour les tout-petits, peut-être encore, mais ben, que ces jours qui vous restent, ben, que vous puissiez les dédier au bon combat. La bonne nouvelle, et c'est ma troisième dernière partie et conclusion aussi, ben, c'est qu'il y a une récompense au bout. Et c'est cette récompense qui va aussi nous aider à combattre le bon combat. Parce que cette récompense, elle nous est acquise. Il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de classement dans la course dans laquelle on court. Parce que, en fait, la récompense, elle nous est déjà acquise par quelqu'un qui a couru la course avant nous, qui s'est offert en libation, qui a combattu le bon combat, qui a remporté le prix. Et aujourd'hui, ce prix, il est là pour nous. Et aujourd'hui, on peut, en courant notre course, eh bien, on peut être associé au prix que Jésus a remporté pour nous. Ce prix, c'est cette couronne de justice éternelle, cette récompense qu'on donne aux vainqueurs de la compétition et qu'on nous donnera, nous, quand on aura franchi cette ligne d'arrivée aussi. Ouais, Jésus a franchi cette ligne d'arrivée et il l'a franchi pour nous. Et aujourd'hui, dès qu'on la franchira, eh bien, c'est comme s'il nous partageait son prix avec nous. Il nous dit, ben voilà, toi aussi, tu es gagnant comme moi parce que tu es arrivé au bout. Ça veut dire que pour nous, il y a une espérance. Si ce combat, il n'avait pas de fin, si ce combat, il n'y avait pas autre chose qui nous attendait derrière, eh bien on ne trouverait pas la motivation de le mener. Mais on peut le mener parce qu'on sait qu'il a une durée limitée et qu'il y a autre chose derrière qui nous attend qui va être génial, qui va être vraiment bon. Alors Paul dit « l'heure de mon départ est arrivée ». Il dit « voilà, l'heure de mon départ est arrivée ». Et dans la manière dont il dit, on sent qu'il va partir parce qu'il y a autre chose derrière qui l'attend. Et il se réjouit de ça. Et puis, il parle de cette récompense. La bonne nouvelle, c'est que cette course, elle est temporaire aussi. Elle ne dure pas toujours. Ça peut nous faire peur de savoir qu'il y a un compteur et que cette vie a une fin. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a aussi une ligne d'arrivée et qu'il y a autre chose derrière après. Donc moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a un compteur. Et je me réjouis du jour où il va s'arrêter parce que ça veut dire que je suis arrivé au bout de ma course. La bonne nouvelle aussi, c'est que dans cette course, on n'a rien à prouver. Parce que cette couronne de justice, elle est là, elle nous attend. Donc je n'ai pas besoin de prouver quelque chose pour obtenir une place, pour avoir cette couronne de justice. Cette couronne de justice, à partir du moment où j'arrive jusqu'au bout, eh ben, elle me sera donnée. Je n'ai rien à prouver. Et ça, c'est une libération. Notre mission, c'est de tenir bon. Soyons des héros de la foi dans la course qui nous est proposée. Voilà, moi j'aimerais conclure là-dessus. Ce que je propose simplement, c'est que vous puissiez, après le culte, quand vous croisez, que vous discutez, ben peut-être quand vous parlez avec quelqu'un, pourquoi pas lui proposer de prier avec lui et lui dire en toute simplicité, voilà, moi j'aimerais prier pour toi, pour que tu tiennes bon dans ta course, et vice-versa. Peut-être que vous aurez quelque chose à partager sur les difficultés du moment que vous avez ou sur les joies du moment dans votre course à vous, et que vous puissiez simplement, en toute simplicité, peut-être prier les uns pour les autres. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous êtes à l'aise, ben voilà, faites-le. Voilà. Je te remercie.